J'aimerais qu'on se lève un peu pour prier pour la France et pour ce quartier où vous êtes. Parce que quand on est quelque part, ce n'est pas un hasard, Dieu nous y a placés pour qu'on soit des canaux pour bénir les lieux où nous sommes. Ce n'est pas pour râler, même si en France nous sommes spécialistes, hein, mais c'est normal, chaque pays a sa culture. Ce n'est pas méchant quand on râle, c'est aussi parce qu'on existe. Mais quand on est quelque part, il faut bénir les lieux. Il faut bénir les lieux. Hier, je discutais encore avec des amis et je disais, tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Pourquoi Jésus parlerait à la tempête? Pourquoi il parlerait à la mer? Et que ces éléments lui obéissent s'ils étaient sourds. S'ils étaient sourds, ils ne pouvaient pas entendre la voix de Dieu. Donc tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Si nous bénissons le quartier où nous sommes, si nous bénissons la terre où nous sommes, si nous bénissons le pays où nous sommes, mais le ciel et la terre du pays où nous sommes, nous serons toujours en bénédiction. Toujours en bénédiction. Moi, je l'ai vécu et je préfère à chaque fois commencer par là. Donc, bénissons la France, bénissons la chapelle, Troyes, Leno et là où vous êtes, puisque c'est votre terrain de mission. Que toutes les portes s'ouvrent, que les gens qui vous voyez bizarrement, mais qu'ils vous voient comme des humains qui leur veulent du bien. Amen. 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 Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Tu as fait de nous des canaux de bénédiction. Et Seigneur, nous voulons vraiment bénir ces lieux où tu nous as placés. Nous bénissons les nôtres, nous bénissons la chapelle Saint-Luc, nous bénissons Troyes, Seigneur Sainte-Savine. Nous bénissons tout le département où nous sommes. Seigneur, nous bénissons ce beau pays de France. Seigneur, que ta parole pénètre dans les foyers pour que tu y sois célébré. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons béni. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je fais plus des photocopies, parce que j'aime bien lire sur des feuilles que d'ouvrir une Bible, mais ça ne change rien, les références seront les mêmes. Ça vous dit quelque chose lorsqu'on dit « J'honorerai celui qui m'honore ». C'est la parole de Dieu. Prenons 1 Samuel. On va prendre du verset 29 au verset 31. Un Samuel, chapitre 2, verset 29 à 31. On pourrait même s'arrêter à 30 ans. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma maison ou dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Amen. Ça paraît dur, mais j'ai plutôt une bonne nouvelle à vous annoncer. Quand Dieu dit « je bénirai » ou « j'honorerai ceux qui m'honorent », on connaît déjà le chemin vers lequel il veut nous orienter. S'il n'avait pas dit ça, qu'il disait celui qui me méprise, je vais le mépriser, on serait un peu perdu. Mais là, il faut m'honorer. Celui qui honore Dieu, Dieu l'honorera. Amen. Comment honore-t-on Dieu? D'abord, quand on honore quelqu'un, on le sait très bien, même dans cette église, je sais que vous honorez bien les pasteurs, les hommes de Dieu, quand je vous entends même nous saluer. Moi, ça me fait quelque chose chaud au cœur, parce que je ne suis pas toujours habitué. Mais c'est une manière d'honorer quelqu'un. Alors, à plus forte raison, Dieu. C'est-à-dire, à un moment, la société même peut nous orienter dans des voies qui sont contraires à Dieu. Mais si nous avons reçu de Dieu, que ça, c'est la parole que j'ai reçue de Dieu, à un moment donné, on est obligé de choisir entre Dieu et ce qu'on attend dans la société. Si on choisit la voie de Dieu, c'est déjà honorer Dieu. C'est comme ça honorer Dieu. Quand on fait toute chose en disant en rien, dans tout ce que je fais, je ne veux être complice de ceux qui souillent le nom de Dieu. Ça, c'est déjà honorer Dieu. Si dans les blagues, dans les discussions, même dans le militantisme, parce qu'il y en a qui sont militants, qui sont des syndicats, etc., des syndicalistes ou des politiciens, il peut y en avoir aussi parmi les enfants de Dieu, hein, pour diriger ce pays, il y a des lois qu'on ne peut pas voter. Si on les vote en disant « mais c'est dans l'air des temps, du temps », on n'honore pas Dieu. Mais même s'il y a 10 personnes ou 40, 100 et vous êtes seul, vous avez cette conviction que voilà ce que j'ai reçu de Dieu. Seigneur, je t'écoute, même si les autres, ils sont nombreux. Avec toi, je suis la majorité. Je vous donne juste un témoignage personnel qui n'a rien à voir, c'est pas politique, mais dans la vie, je suis quelqu'un d'engagé. Je ne le montre pas toujours, mais je suis engagé quand il y a quelque chose. La Bible dit il faut être à la voix des sans voix. Quand quelqu'un est accusé injustement, il y a des moments où vous devez agir. Il y a quelques années, on m'a appelé. Mes origines sont ivoiriennes, je le dis, mais ça fait plus de 40 ans que je suis en France et je suis français. Mais lorsqu'il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire, des gens m'ont approché. Ils m'ont dit « viens parrainer notre groupe parce qu'on veut installer la représentante de ceux qui sont en prison à La Haye ». J'ai dit « je ne fais pas de politique, mais la façon dont j'ai vu qu'on a bombardé la résidence du président, la façon dont on l'a amené en pleine nuit à La Haye, comme s'il était voleur, alors que c'est un homme avec lequel beaucoup de ma génération ont grandi, j'ai accepté. Et je me suis présenté, c'était à Paris, il y avait tout le monde, il y avait même des politiciens de la France, et juste, on m'a laissé la parole en tant que parrain, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Et j'ai pris la parole, j'ai dit, voilà, vous avez l'ONU, vous avez des mercenaires partout qui sont venus envahir le pays. C'est-à-dire, c'est un mouvement international. Ça n'a rien à voir avec quelques querelles ethniques. Quand l'ennemi est très, très puissant, vous faites comment ? Lorsque vous êtes dans un royaume, mais si votre royaume a difficulté, mais vous cherchez le voisin d'à côté, le royaume d'à côté, qui est un peu plus fort pour venir vous fortifier. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'empereur qu'on doit voir pour notre royaume ici-bas, c'est Dieu. Et j'ai levé la main devant tout le monde, j'ai dit voilà, moi je n'ai que Dieu, et je vous présente ce Dieu-là. Il y a eu quelques mouvements, parce qu'en France, on ne parle pas politique. Mais j'ai dit, moi, je n'ai que Dieu. Et depuis ce temps, j'ai fait un pacte avec Dieu. Je dis, voilà Seigneur, si ces hommes qui sont là, ils sortent, tout le reste de ma vie, je te servirai. Le 15 janvier de cette année, ma femme et moi, on a fait un voyage. Au moment où on est arrivé à l'aéroport, on partait, on était à l'aéroport, on attend, mais j'ai eu des textos. Le tribunal a prononcé, ils sont acquittés. Je n'y croyais pas, j'ai renvoyé des textos et on m'a confirmé. Quelques minutes après, on entend, ah, le procureur a fait appel. Quand je suis arrivé au Nigeria, parce que ma femme et moi, on était en voyage pour une semaine de, hein, on va dire, de méditation. Donc on s'est enfermé, on a été dans ce qu'ils appellent une montagne de prière. C'est un lieu, tout simplement, où vous passez une semaine à chercher la face de Dieu. Et là, dès que je suis arrivé, je dis, voilà, merci Seigneur pour ce qui a été fait, déjà. Parce que ce n'était pas possible. Mais là, tu as montré la faille. Alors, tu vas terminer. Je te fais confiance. En février, on les a libérés, mais avec beaucoup de problèmes. Mais je vous garantis, je suis enfant de Dieu, je ne fais pas de politique, mais quand Dieu entre dans un projet, il va jusqu'au bout. Mais il ne le fait pas parce que il a envie... comme ça, ou parce que les chrétiens crient seulement. Non. Dieu le fait pour son nom. Vous ne prenez pas le nom de Dieu dans un projet. Si vous le prenez sérieusement, Dieu il se sent engagé. Et ce matin, quand Dieu dit « J'honorerai celui qui m'honore », je vous en prie, prenez cet avertissement ou cette promesse comme quelque chose de sérieux. Quel était le contexte ici? Il s'agit d'un serviteur de Dieu, Élie, d'une génération de sacrificateurs qui sont partis depuis l'Égypte, que Dieu a lui-même dit, vous serez les sacrificateurs de mon peuple jusqu'à perpétuité. Et qu'est-ce qu'il fait, Élie? Qu'est-ce qu'il fait? Je rappelle, Élie, c'est celui qui a éduqué, qui a formé le grand Samuel. Mais ses propres enfants, ils faisaient n'importe quoi. Ils abusaient des femmes, des autres, les sacrifices, ils brutalisaient les gens qui viennent pour les sacrifices, pour prendre la viande, pour aller la manger, la viande qui était réservée à l'autel. Ses enfants, ils ne les reprenaient pas, où il le faisait du bout des lèvres. Et Dieu dit, tu aimes donc tes enfants plus que moi. Tu aimes tes enfants plus que moi. C'est à celui-là qu'il a dit, j'honorerai ceux qui m'honorent et ceux qui me méprisent, mais ils seront méprisés. Et il a mis, si vous prenez le verset 34, ta lignée sera effacée du sacerdoce, un ennemi dans ma maison. Le signe qu'il va présenter ici dit, tes deux fils mourront le même jour, Ophni et Phiné. Tes deux enfants vont mourir. Ils vont mourir. Quand on dit ça, quand on est dans un bar ou dans un restaurant entre copains, dans la discussion mondaine, il dit, mais c'est quoi ce Dieu? Il tue des gens, tout simplement, parce que, bon, ils ont passé quelque temps avec des femmes, ou ils ont mangé de la viande, donc c'est rien. Il va tuer comme ça et supprimer toute une lignée de famille. Mais vous savez qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit que l'univers tout entier ne peut contenir Dieu. Est-ce que vous vous voyez en train d'aller à l'Élysée, même si on râle un peu dans les quartiers, est-ce que vous vous voyez en train d'aller à l'Élysée insulter le président Macron? Pas du tout. D'abord parce que quand vous allez arriver, on ne vous laissera pas passer comme ça. Or, nous, nous avons le privilège de parler à Dieu où que nous soyons. Où que nous soyons, entre quatre murs, sur la place publique. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime et il ne veut pas notre perdition. Et la barrière qui était entre lui et nous a été brisée en Jésus-Christ. Pour qu'on n'ait plus à avoir des excuses de toutes sortes. Un tel Dieu qui est si grand, qui dit « sans moi, ils ne peuvent rien faire, donc je viens à leur secours », et il nous montre le chemin, et après on fait n'importe quoi. Je ne suis pas en train de vous sermonner pour vous sermonner, j'essaie juste de rappeler un certain nombre de choses, déjà pour qu'on aille plus loin. Quand on sert Dieu, Dieu vous honore. Je rappelle toujours aux Français qu'on appelle de souche. Je viens d'un pays lointain. Ils ne connaissaient pas la Bible. Avec toutes les malversations des uns et des autres, je ne reviens pas sur ces détails-là. Mais un pays comme la France, fille aînée de l'Église, c'est comme ça on l'appelle hein, dans le discours. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est un peuple qui a dit à un moment donné qu'il existe un Dieu tout-puissant, unique, qui est là et qui existe. Imaginez comment se fait-il que toutes ces nations ont pu avoir le monde entier. Je dis bien toutes ces nations. Vous prenez, vous allez au Canada, vous allez trouver des Français ou de la descendance. Je ne parle même plus des Anglais. Eux aussi, ce sont des Européens. Je fais exprès pour vous rappeler, quand on honore Dieu, ce n'est pas une question de force physique. La Chine existait quand la France était là. C'était des grands empires. Et ces pays européens ont dominé le monde. Rappelons-nous cela. Dieu honore ceux qui l'honorent. Il donne même l'intelligence. Psaume 50, verset 23 dit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Oui, celui qui offre des sacrifices et des actions de grâce. Les actions de grâce, ce sont aussi des reconnaissances envers Dieu. On commence toujours tout doucement. Dieu peut vous bénir avec des choses simples. Si vous êtes fidèle, vous allez monter en grade progressivement dans la bénédiction. Savoir reconnaître le peu que vous avez reçu de Dieu, que nous avons reçu de Dieu, Dieu en tient compte. Comptez les bienfaits de Dieu et vous verrez combien le nombre en est grand. Quand on commence à compter dans la fin de votre journée ce que Dieu a fait dans votre vie, il y en a, ils vont au travail, ils rentrent. Il peut même rentrer à minuit, il rentre, d'autres ne rentrent pas. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, je l'ai même entendu, hein, que c'est une grâce pour qu'on soit là. Ça a l'air de rien, ça semble être des détails, mais ça a son importance. Malachie 1, verset 6. Je vais vous lire ces quelques choses et puis je vous donnerai quelques autres exemples plus profonds. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Souvent on le dit quand on parle des dîmes, quand on parle des offrandes, mais je ne vais pas aller jusque-là, juste tout simplement dans les quelques lignes. Quand on reconnaît Dieu comme notre Père ou comme notre Dieu, on lui doit des honneurs, on lui doit du respect, on lui doit, je dirais même de, comment je dirais ça, on lui doit même de la soumission à notre Dieu. Si vous le considérez comme un Père, vous lui devez aussi de l'honneur. S'il était maître, parce que souvent on dit, je suis ton esclave, on le dit même souvent. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que d'être esclave? Être esclave, ce n'est pas quelque chose de simple. D'abord parce que vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas d'identité, vous êtes un objet. Vous êtes un objet. On vous a enlevé. Dans votre village, dans votre famille, du jour au lendemain, vous allez vous retrouver dans des cales de bateaux à destination d'autres terres que vous ne connaissez pas. Demandez à Joseph, le fils de Jacob. Il vient dire bonjour à ses frères. Papa m'a envoyé pour que je voie dans quel état vous êtes. Et il dit, tiens, voilà le doux rêveur, l'homme des songes. Il faut qu'on le tue. Joseph n'est plus jamais retourné chez son père. Plus jamais. C'est ça l'esclavage. Mais Dieu va l'élever. On verra plus tard, vous le savez. Là où il a été, ça n'a pas marché non plus. Ça a été quelque temps, puisque Dieu l'a élevé, partout il est passé, hein, on voit que Dieu l'élève. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est même pas nos difficultés, parce que les difficultés font partie de cette terre. Un de mes formateurs m'a dit un jour, rassure-toi, on n'est pas encore au ciel, on est sur terre. Donc il n'y a rien de parfait ici, tu trouveras personne qui sera sans défaut. C'est le jour où tu seras auprès du Père. Donc les souffrances sont ce qu'elles sont, mais elles sont là pour que nous apprenions. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui apprend dans l'abondance, à part être arrogant. Mais dans la souffrance, on apprend. C'est une belle école. La plupart des gens qui ont réussi, la plupart des gens, même dans la Bible, on voit la souffrance, et après, c'est Dieu qui les relève. Et c'est à partir de ce moment-là, quand ils parlent, on a l'impression qu'ils n'ont jamais souffert. Quand on vous dit David et Goliath, tout ce qu'on pense, David, il a terrassé le grand. On n'a jamais vu que David, il a souffert. Il a souffert. Dans sa famille, Dieu dit, va dans cette famille, j'ai mon futur roi. Le père a aligné tout le monde, sauf David. Sauf David. Imaginez-vous dans vos familles, vos parents, ou votre père, il rassemble toute la famille. On dit, bon, on veut voir les garçons. Parce qu'il va y avoir le prochain président de la France. Et on choisit, le père, il aligne tout le monde, sauf vous. Il dit, toi, va faire les courses, va garder les moutons, et puis voilà, on va voir ça. Qu'est-ce que vous auriez fait de votre père? Qu'est-ce que vous auriez fait? Tu ne m'aimes pas, papa. Mais ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais je vous le dis, Quand je le dis comme ça, croyez-moi, j'ai vécu des choses difficiles. Mais quand Dieu t'élève, tu as l'impression que tu n'avais pas vécu tout le reste ou tu les as vécues pour que tu les racontes. Je suis marié à une Hollandaise, je vais vous le dire simplement. Avant de me marier, ça a été la galère. Difficile. On était en France, elle était en France avec moi. Les difficultés qu'on a eues, on ne les a pas eues dehors, on les a vues dans l'église. Il ne fallait pas qu'on se marie. Je n'étais pas la bonne pointure. Mais ce que j'ai aimé dans tout ça, quand Dieu m'a dit, au cours d'un culte, tu dis que tu t'es confié à moi, mais laisse-moi faire. Bon, Seigneur, je dis plus rien. Elle non plus, elle disait plus rien. 5 mois. On s'ignorait même. Mais quand le moment est venu, c'est elle qui était prête à venir à 3, puisque moi j'étais déjà à 3, je faisais la navette. Toute l'église était derrière nous. Même des églises des Pays-Bas sont venues. Il y a quelques semaines, on a vu mon pasteur de l'époque. Dès qu'il nous a vus dans une église, il était ému. Ému. Parce que des gens qu'il a mariés, qu'il a dirigés, mais dans des moments difficiles, ils nous voient et notre fille était dans l'église où il était là-bas et il nous a vus arriver. Il a dit, ça fait du bien de voir des gens qu'on a vus il y a 25 ans et qui sont fidèles avec Dieu. Dieu honore ceux qui l'honorent. Et il a promis d'honorer ceux qui l'honorent. Gardons toujours ça à l'esprit. Je vais vous donner aussi un autre exemple. Vous savez, quand je dis Dieu honore ceux qui les honorent, ça ne veut pas dire que on n'a pas de défaut. Mais quand le moment arrive, quand il y a un défaut, il faut faire demi-tour, va vers Dieu et tu te repens. L'enfant de Dieu qui se trompe ou qui chute, je crois Jean-Bernard a dit tout à l'heure, il était content en introduisant que dans ces moments de chute, ben Dieu était là. Quand nous tombons, parce qu'on chute, celui qui marche, il peut chuter, sauf si tu ne marches plus. Sinon, l'enfant de Dieu qui marche, qui vit, il y a des moments où la chair, elle flanche. Mais il faut regarder à Dieu. Je vous donne l'exemple de David. David, il avait toutes les femmes du royaume. Il avait la possibilité, il était roi. Mais il a lorgné sur la femme de son soldat, qui en plus était en guerre. Donc ce n'était pas un soldat qui ne faisait pas grand-chose. Cet homme-là, quand c'est arrivé, Dieu a envoyé Nathan vers David. David, il jouait bien avec cette vie, ça lui plaisait. Qu'est-ce qui s'est passé? Nathan est venu et Nathan lui a raconté une petite histoire comme on aime bien l'entendre. Les riches et les méchants. Et il lui a raconté ça. Et David, sur ses grands chevaux, a dit, mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Dis-moi, je vais l'éliminer. Nathan dit, mais c'est toi, David. Ah, oui. Puisque il n'avait que cette femme. Que dit la Bible. Je vous envoie, on va lire 2 Samuel chapitre 12. Voilà ce que dit Nathan. Je vais être un peu plus long. On va aller du verset 2 jusqu'au verset 12. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. Amen. Amen. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Toujours quand on parle de David, on dit l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu lui a dit, voilà, ce que tu as fait là, je vais m'occuper de toi sérieusement. D'abord, dans ta propre maison, il va y avoir de la rébellion. C'est chez toi, ça va se passer. Deuxièmement, tes femmes, d'autres vont s'en occuper. Tu as pris la femme de Uri en cachette et tout ça, mais je vais le faire publiquement et tu vas voir. De Samuel, chapitre 16, versets 19 à 22. Quelqu'un voudrait bien le lire, ces trois versets. 2 Samuel, chapitre 16, versets 19 à 22. Oui, allez-y, sentez-vous libre. Quelqu'un peut le lire à haute voix. Je fais exprès, hein, parce que si je le lis comme ça, mais nous-mêmes, on va... Oui, vas-y, mon frère.
2 Samuel, chapitre 16.
Oui.
Cherchez entre vous ce que nous devons faire. Ahitophel dit à Ainsi ton père ne pourra plus te supporter. Tous les Israélites le sauront, et ceux qui sont avec toi seront encouragés.
Amen. Le verset 22. Amen. J'aime la parole de Dieu parce que souvent on a l'impression que c'est des belles choses idylliques et tout ça. Mais Dieu nous montre même la profondeur du mal. Tu as pris la femme d'un autre, eh bien tu vas voir. Les tiennes, quelqu'un d'autre va le faire. Mais c'est quelqu'un d'autre, ce sera même plus des étrangers. Ton propre fils. Déjà, dans notre société, on parle d'inceste, etc., etc. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, hein, dans les Lévitiques et tout ça, tout ce qui est relation dans les familles, des choses comme ça, c'est très, très condamné. Et c'est ce même Dieu qui dit, voilà comment tu vas être condamné. Tu vas voir la douleur de ce que ça fait. Cette fois-ci, c'est même pas une douleur de dire, ah, c'est un étranger qui s'est infiltré chez moi, mais c'est mon propre fils. Double peine. Double peine. Mais vous verrez que tous ces enfants-là, entre eux, il va y avoir de la mort. Puisque le père, lui, il a voulu enlever son père au pouvoir. Dès l'instant qu'il a souillé son père, il a humilié, etc. Pour lui, il était convaincu que l'affaire est bouclée. Son père ne pourra plus jamais revenir au pouvoir, puisqu'il est sale, il n'a pas même pas été capable de veiller sur son foyer, sur ses femmes. Quel est ce roi qu'on pourrait avoir avec des femmes souillées par ses propres enfants? Mais Dieu a rétabli David. Dieu a rétabli David. Et c'est à cela aussi que je voulais vous emmener. Mais il y a un autre exemple. C'est l'exemple de deux prophètes. On dit toujours le jeune et le vieux prophète. Dieu a envoyé un jeune prophète à lui dire à Jéroboam tout ce qui va se passer. Il dit, va lui dire ma colère. Mais une chose, une fois que tu as rempli ta mission, prends un autre chemin et retourne. D'où tu es parti. Ne mange rien, même pas chez le roi. Il y va et il dit ce qu'il a à dire au roi. Et le roi, qui est en voie de changer, et donc il part, il retourne sur un autre chemin. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un vieux prophète qui était déjà dans le coin, comme quoi Dieu sait ce qu'il fait. Il y avait un prophète dans le coin. S'il était si bon, est-ce que Dieu aurait envoyé un jeune prophète pour parler au roi? Je ne crois pas. Je dis cela parce que si Dieu vous donne une mission, ce n'est pas une question de dire « Ah, le pasteur ou l'ancien ou ma voisine qui a 30 ans dans les choses de Dieu. » Je n'incite personne à la rébellion hein, contre son pasteur, contre quoi. Mais à un certain moment, quand on est chrétien, on est seul face à face avec Dieu. Seul face à face avec Dieu. On va venir vous dire « Ah oui, ma sœur, on te glisse des versets, etc. » Alors que dans ton intimité, tu as reçu une conviction de Dieu. La façon dont Dieu va te nourrir pour être solide, c'est quand tu vas affronter même le grand nombre de gens. Pas par mépris, mais tout simplement par obéissance à Dieu. Pour honorer Dieu, tu dis, moi, je sais que j'ai reçu ça de Dieu et je vais aller jusqu'au bout dans ce qu'il m'a dit. quand tu vas agir comme ça, au moment où tu vas t'en sortir, tu seras encore un instrument pour édifier les autres. C'est-à-dire le jour où tu vas à quelqu'un en difficulté, tu vas pas venir pour lui glisser que des versets comme ça à la figure. Tu vas essayer de l'écouter et après lui donner des conseils pour l'encourager. Si Dieu t'a parlé, alors tiens bon. Tiens bon. 1 Roi 13. Le verset 13. Le premier verset, hein, le verset 11 et, 1 et 2, pardon. Un roi 13, verset 1 à 2 déjà, dans un premier temps. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi les ossements d'hommes. » Je prends le verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. On verra ici que le roi, maintenant, il va demander au jeune prophète de rester. Mais il n'est pas resté, il a pris un autre chemin, il a obéi à Dieu, il est parti. Entre-temps, le vieux prophète a entendu parler de lui et il a demandé par quel chemin il est parti. Verset 18. Il arrive auprès de ce jeune prophète et il lui dit, je vais prendre au verset 15 avant d'arriver au 18. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Verset 18, et ils lui disent, donc le vieux prophète lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain, et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, au verset 19, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Mais ce qui va se passer, c'est que il va mourir. Donc le jeune prophète va mourir. On va être tué par un lion, etc. Je vous laisse lire tout ce chapitre, mais le verset 26 dit ceci. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, donc il a appris qu'il est mort, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel et l'Éternel l'a livré au lion qu'il a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. C'est lui qui avait dit aux jeunes prophète, moi aussi je suis prophète comme toi, un ange m'a parlé, viens, de vous à moi, si on est chrétien, si on a une vie de prière, il y a des moments où on a des convictions fortes, La Bible dit quelque part, celui qui connaît son Dieu, il agit toujours avec fermeté. Tu n'agis pas, ah ben oui, mais ils m'ont dit ça, mais moi, dans ma prière, je sais que Dieu m'avait parlé, et puis maintenant, non. Deux prophètes. Le jeune, il a déjà réussi la première étape. Au lieu de continuer son chemin, il a écouté le vieux prophète. Et il en est mort. Et le vieux prophète dit tout simplement, c'était un homme de Dieu, mais il a été rebelle à Dieu. Qui était le tentateur? Qui l'a poussé à l'erreur? Et là, il est tout seul face à ses problèmes, il est mort. L'enfant de Dieu, on est appelé à grandir. Quand on mûrit dans la foi, on ne vous entraîne pas n'importe où. Vous êtes dans votre église, il y a du bruit dehors, ah ben, il y a un tel qui vient, qui fait des miracles là. Vous dites, moi, j'ai pris tous les jours, j'ai ma relation avec Dieu. Dieu ne m'a pas dit qu'un grand serviteur allait venir et que j'aille le voir. D'ailleurs, parce que si on lit dans la Bible, on dit aussi dans les derniers temps, beaucoup vont venir, il y en a même qui vont se faire passer pour le Christ, mais n'y allez pas. Parce que le moment venu, vous allez tous voir Christ comme il est parti. Donc, dans notre vie spirituelle, quand on a une maturité spirituelle, il y a des choses qu'on ne fait pas, des erreurs dans lesquelles on ne tombe pas. Et le jeune est mort. C'était un prophète pourtant, mais il est maintenant qualifié de prophète rebelle. Je ne vais pas continuer parce qu'il est déjà moins 10. Il est moins 10 et pour moi ça... Mais vous connaissez beaucoup d'hommes de Dieu. Si je parle de Job, j'ai déjà parlé de Joseph, j'ai parlé de Daniel et ses trois compagnons. À chaque fois, quand ils sont en difficulté, parce qu'on leur dit de renoncer à leur foi. Et il dit, de toutes les façons, nous on connaît notre Dieu. S'il y a un problème, même si Dieu ne répond pas immédiatement et nous ne sommes pas d'une situation, tant pis, c'est son problème. Mais nous, on reste fidèles. Daniel, dans la fosse au lion, c'est le roi lui-même qui venait le matin pour dire, ah, Daniel, est-ce que ton Dieu il t'a sauvé? Toi qui avais pris la décision sous la pression, te voilà qui regrette un peu ton acte et tu viens. Effectivement, Daniel n'était pas mort. Ses trois compagnons aussi, hein, quand ils ont été dans la fournaise ardente, c'est aussi la même chose, les choses. Mais quand vous lisez à la fin, c'est que Dieu les a toujours relevés, élevés. En dignité. Même Job, quand vous allez vers la fin, Job, il a eu encore plus que ce qu'il avait au début. Dieu honorera toujours ceux qui l'honorent. On va lire en conclusion, juste. 1 Corinthiens, chapitre 10. Chapitre 10, versets 31 à 32. Ah, excusez-moi. C'est bon? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Oui, la suite. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Voilà. C'est bon? Alors, vous entendez ni aux Grecs, ni aux Juifs, etc. Ce sont les gens, les Grecs, ils étaient différents des Juifs. Ici, on est dans un quartier. Si on est là, notre attitude doit être une attitude qui donne envie de dire « Ah, c'est un bon voisinage. Ce sont des gens qu'on aimerait fréquenter. » C'est des gens qu'on aimerait fréquenter. Si on est en scandale, on dit « Oh là, ceux-là, ils font beaucoup de boucans. On ne sait même pas ce qu'ils font dedans. Et puis, ils sont bizarres. » C'est ce qui va venir souvent. Et ça ne fera pas de vous des porteurs de bonnes nouvelles. Que dit la Bible pour ceux qui portent la bonne nouvelle? Qu'ils ont des pieds qui sont beaux. Que Dieu vous donne toute la sagesse pour que vous soyez des gens qui honorent Dieu. Parce que Dieu vous relèvera. Que Dieu soit béni. Pouvons-nous nous lever pour remercier Dieu? Notre Dieu est fidèle, il est bon. Il n'est pas homme à mentir, à dire une chose et faire le contraire. Seigneur, nous croyons dans ta promesse. Celui qui t'honore, tu as promis de l'honorer. Seigneur, je confesse sur cette église qu'elle soit une église qui t'honore dans cette ville. Que ses membres, Seigneur, soient des hommes et des femmes qui te craignent et qui t'honorent dans leur propre vie, dans la vie de leurs enfants, que le mari, par son attitude envers sa femme, t'honore, que la femme qui est le pilier d'un foyer, Seigneur, qu'elle t'honore par son attitude, pour que ceux-là même qui sont dehors, en voyant les familles entrer ici, unies, avec des enfants bien élevés, Seigneur, qu'ils aient envie de fréquenter tes enfants. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Amen. Amen.